De nous relier encore une fois avec nos amis, frères et sœurs, hein, avec Swami Atmananda et aussi le Père Jean Séraphin dans ces différentes traditions spirituelles. Nous sommes là comme un foyer d'humanité qui se laisse être travaillé par l'Esprit. Dans un moment collectif, nous le savons, très tourmenté dans nos sociétés, que nous puissions prendre conscience que ce qui se passe là, comme dans tellement d'autres lieux de conscience, est important. Deux sont réunis en mon nom, et le Christ est là, au milieu de nous. Trois sont là réunis, c'est la foule. Alors, entre nous, n'en parlons pas. Une grande foule, pour simplement, dans cet embryon d'humanité, se laisser être travaillé. Un moment de conscience, un moment de sacrifice, c'est-à-dire d'un acte sacré, où nous faisons du sacré, où nous laissons l'Esprit nous faire dans ce qui peut être perçu, dans ce qui peut être offert de difficile, de douloureux aujourd'hui. Chacun sait où est-ce que c'est difficile, là où nous ne comprenons plus rien, là où nous sommes fatigués, parfois désespéré. Là, on a l'impression que il n'y a plus rien qui tient. Tout s'effondre. Tout ce à quoi on s'était identifié, ses repères anciens, un tremblement de terre, une maladie, une perte, une rencontre, un chemin nous a fait quitter un ancien monde. Nous le savons bien. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous le savons. Et nous ne savons pas encore ce que nous promet l'avenir. Nous sommes là, oscillant dans un entre-deux. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? Qu'est-ce qui reste? Dans cette nudité, sois fort. Si tu peux, si tu veux, tu peux. injonction résonne bien souvent, comme une invitation à se ressaisir, à secouer le découragement et l'inertie qui colle à nos pas. Mais ce que n'entendent pas les donneurs de leçons, c'est que vouloir est d'abord un dessaisissement, un étrange déplacement, passant par un abandon qui n'est pas démission, mais détachement de toute prétention à s'émanciper soi-même de ses démons. La force et le courage nous arrivent par surprise. Ils ne sont rien que nous pouvons nous donner. Ils s'annoncent à notre insu comme l'inespéré d'une issue au vif de la douleur ou dans la lenteur du désarroi. Quand enfin se dissipe l'effroi. Nous sommes là en marche, claudiquant, boitant, blessés. Mais, du mieux que nous pouvons, parfois, malgré soi-même, cette parole qui nous colle au cœur, qui nous colle au corps, dans ce désir têtu, me voici, Seigneur. Me voici. Fini. Pauvre. Mais me voici. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire, dans ce corps d'humanité qui nous a été, dans ce bout d'univers qui nous a été confié, être là. Déposé en terre, enraciné en terre, ouvert au ciel, dans l'ouvert, dans le oui vert, être là dans notre bassin. Les yeux sont fermés ou légèrement ouverts. Le regard tourné vers l'intérieur. Être là. Être là. Comme des veilleurs. Pour mon bien-être, mais aussi le bien-être de nos enfants, Être là pour le bien-être de tous. Je propose peut-être de laisser le temps des questions dans la deuxième partie de l'après-midi, si vous avez des choses éventuellement, ou simplement des témoignages aussi, pour compléter ce qui vient d'être partagé. Nous ne faisons qu'approcher ce mystère qu'il nous faudrait, bien sûr, vous le savez bien, approfondir. Là, c'est comme si préparer un chemin, donc ce chemin, nous l'avons rappelé ce matin à travers l'évocation de ces textes, de ces images, de ces clichés. Ce matin, c'est comme si on avait entendu qu'il y avait cette voix que les anciens vont nommer souvent comme une voix positive, où l'on va rencontrer l'être qui est ce qui est, l'être divin, à travers des textes, à travers des images, à travers des représentations positives. Et puis nous avons appréhendé aussi, nous avons rejoint, d'un point de vue de l'histoire de l'humanité aussi, combien cette triple naissance pouvait vraiment rejoindre notre propre identité, et que finalement, l'homme, l'être humain, l'Adam, créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, l'Adam est créé à l'image d'un être trinitaire. Et ce Dieu trinitaire, en son sein, il y a un mystère à la fois d'engendrement et de procession, à travers le Père par rapport au Fils et par rapport à l'Esprit-Saint, comme si finalement l'image à laquelle nous sommes créés, c'est une image relationnelle. Et donc cette naissance du Fils dans le sein du Père, dans le sein de la Trinité par le Père, dont Jean Toller a essayé de dire quelques mots ce matin dans cette rentrée, puis cette sortie, pour aussi l'ajuster dans notre vie intérieure. Pour Jean Toller et pour ses mystiques rénants, ce modèle relationnel et cette naissance du Fils par le Père doit aussi s'opérer dans le fond de notre âme, puisque nous sommes créés à l'image. Donc cette image dans les profondeurs, c'est comme si cette naissance avait aussi à se faire, et parce que le Fils naît du Père dans les profondeurs de notre âme, nous devenons aussi, chacun et chacune, fils et fille dans le Fils. Je ne sais pas si je suis clair. Comme si finalement, à travers tout ça, c'était une invitation à ce que cette naissance éternelle du Père, du Fils par le Père dans la divine Trinité, mais en nombre porté dans les profondeurs de notre humanité, puisque nous sommes créés à l'image de cette danse trinitaire, nous rendait de plus en plus fils et filles, et que c'est l'avènement, que c'est la naissance du Fils et de la Fille de Dieu que nous sommes, de manière unique et particulière, que nous sommes, qui est honoré et rappelé à ce moment-là. Et donc c'est ce que cette mystique rhénane n'aura de cesse que de signifier, et là où Jean Toller a beaucoup insisté sur les trois naissances, peut-être nous en dirons s'il y a des questions un peu plus tout à l'heure, simplement maintenant rejoindre le maître, celui qui a été l'instigateur, nous pourrions dire, ou l'inspirateur de ce qu'on appelle le grand mouvement de la tradition mystique rhénane, qu'on appelle maître Eckhart. Jean Eckhart, on peut en dire quelques mots sur sa vie, mais c'est surtout de rejoindre tout un ensemble de paroles, et en particulier un ensemble de sermons, qui font partie de ce qu'on appelle le cycle de la naissance de Dieu dans l'âme, correspondant à 4 sermons, 101, 102, 103 et 104. De toute cette sermon que Maître Eckhart, donc, alors on ne sait pas exactement quand il les a écrits, est-ce dans les années 1298, vous savez que Maître Eckhart donc, est né en Allemagne, en 1260, à Rochelle, peu importe, et en 1275, donc il a 15 ans, il rejoint le couvent d'Erfurt, où il rentre donc comme moine dans une communauté dominicaine. Et là, sans doute pendant une trentaine d'années, hein, entre 1275 et 1303 à peu près, hein, donc il va rester à Erfurt, et puis donc régulièrement, enfin jusqu'en 1315, pardon, il va rester jusqu'à Erfurt, en faisant donc, en ayant une fonction dans l'ordre dominicain, et il va régulièrement venir à Paris, d'abord pour présenter sa thèse hein, en tant que novice, voilà, et là c'est la première trace que nous avons d'un sermon de Jean Eckhart en 1298, puis il va également revenir à Paris comme maître, comme professeur, et même comme professeur honoraire, donc avec une grande mission, donc tellement sa notoriété va être importante à ce moment-là, à travers une prédication souvent très provocatrice, très révolutionnaire, hein, et même parfois, diront certains, un peu excessive, ce qui a fait d'ailleurs dire que certaines de ces sentences qui ont été exclues du contexte ont pu être source ou interprétées en termes d'hérésie, d'où le procès qu'il va vivre à la fin de sa vie, hein, vous le savez. Donc il va avoir depuis un moment de prédication, il va rester à Erfurt, puis après il va être, entre 1313 et 1323, il va être à Cologne, à Strasbourg, pardon, et c'est donc dans ce contexte-là qu'il va donc prêcher ses différents sermons à des communautés de sœurs, et après donc il ira à Cologne, où là va commencer tous les affres du procès, et il mourra, donc il naîtra au ciel en 1328. Donc c'est une vie très tourmentée, très mouvementée, hein, qu'il a eue, Maître Eckhart. C'est un prédicateur, c'est un enseigneur, hein, donc c'est un être qui a aussi vécu des tournants mystiques extrêmement profonds. Et n'oublions pas que la mère de Maître Eckhart a été profondément inspirée par le mouvement Begin. Ah oui. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment toute la grande tradition de Maître Eckhart avec les Begin. Et c'est pour ça que Maître Eckhart aura beaucoup de, je dirais, de grâce, enfin en tout cas de gratitude par rapport à tout ce mouvement, qu'il n'aura de cesse aussi que d'alimenter hein, par rapport à ses prédications, puisque bon, même s'il ne les a pas vraiment rencontrés, quoique, hein, puisque c'est plus au nord quand même, en Belgique, hein, ou dans l'Europe du Nord, mais en même temps, chez contemporains, et Maître Eckhart a été profondément inspiré dans sa mystique du mouvement du Begin. Et d'ailleurs, certains même, lorsqu'on rencontre un peu la théologie mystique des Begin, hein, en particulier de leur Heidegger, je ne vais pas me tromper, Heidegger, c'est raté encore, je suis en terrain, il faut que je sois attentif, ouais. Voilà, Marguerite Porret, c'était plus simple pour moi et d'autres, Marguerite, bref, tout ce grand mouvement des Begin, vous savez, eh bien, c'est beaucoup, alors, a inspiré toute cette théologie de Maître Eckhart. En sachant qu'on dira que Maître Eckhart est plus de la dimension intellective, c'est pas un homme très affectif hein, dans sa parole et dans la transmission, et parfois pour certains ça manque un peu de chair, ça manque un peu de, je dirais, du climat du Cantique des Cantiques, de ce bien-aimé, du loin-près qu'on va beaucoup retrouver dans le mouvement des Begin par exemple, hein, en tant que ses amants, hein, du bien-aimé, hein, ce loin-près, hein, cette antinomie étonnante, hein, telle que Marguerite Porret ou Heidegger d'Anvers, hein, le signifiera, j'ose, c'est ça à peu près, et donc, et d'autres, enfin voilà, comme Marie Douany et d'autres, hein, ce grand mouvement des Begin hein, jusqu'au milieu du XIVe siècle, hein, comment ce mouvement donc peut-être plus nourrit cette dimension un peu affective et aimante ou amoureuse hein, de ses amantes. Voilà, c'est peut-être qui peut manquer parfois pour certains hein, dans la dimension. Mais Eckhart, c'est vraiment un discours qui nous ramène à une forme de structuration, une espèce de clarté, hein, de vérité, de parole, en sachant que dans ses sermons sur la naissance, il a également parlé d'amour. Mais c'est vrai que c'est un nom qui vient peu. Hein, cette notion de vérité, cette notion d'une infusion de connaissances que cet homme reçoit à travers donc sa prédication. Et donc, c'est depuis quelque temps, c'est pas au début, mais c'est depuis tous ces travaux récents sur Maître Eckhart et sur son histoire, tout un travail donc qui est toujours d'actualité, que ces sermons ont été vraiment considérés comme écrits de sa main, inspirés, et ils recèlent sans doute le noyau, l'essence, la quintessence de l'enseignement de Maître Eckhart. Et n'oublions jamais que ce thème de la naissance de Dieu dans l'âme, ce sera, en termes occidentaux, ce que, en Orient, nous appelons la déification de l'âme. C'est la même chose. Déification de l'âme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, rappelez-vous, par participation. Et derrière tout ce contexte de l'enseignement de Maître Eckhart, il s'agit bien de tout le processus de spiritualisation, de la déification de notre âme. Et d'un point de vue occidental, dans la théologie mystique de l'Église d'Occident, qu'a vraiment beaucoup développé le mouvement rhénan, la mystique rhénane, et c'est eux vraiment qui l'ont beaucoup thématisé, c'est la naissance de Dieu dans l'âme. On a commencé à en voir quelques aspects avec Jean Teller ce matin, et la grande parole que va reprendre beaucoup Maître Eckhart dans l'arrière-plan de ses sermons, c'est ce que Maxime le Confesseur avait proposé bien des siècles auparavant, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. La nature de Dieu est divine, et nous devenons par grâce ce que Dieu est par nature. Vous savez, cette image que vont beaucoup utiliser les anciens dans la tradition, c'est que l'âme humaine est un peu comme ce fer, plongé dans le feu de l'esprit, et cette âme, ce fer, porté à incandescence, lorsqu'il brûle de la présence du feu, on ne sait plus si c'est du fer ou du feu. On le vérifie dans quelque chose de très concret, en chaudronnerie, les maréchaux ferrants, quand on brûle vraiment le fer, et là arrive un moment où on ne sait plus si c'est du fer ou du feu. Et bien voilà, c'est ça, c'est comment l'être humain est capable, son âme plongée dans le feu de l'esprit, de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Ce feu, dans cette compénétration des énergies incréées et de l'âme, dans le fond de l'être. C'est ça que Maître Eckhart va trouver ou va dire avec ses mots à lui, dans cette interprétation, dans ce lieu, dans cette fine pointe de l'âme, dans ce fond de l'âme dont parle cette tradition mystique, et comment véritablement nous sommes invités à retrouver, à être là dans ce lieu, en tout cas à en prendre soin du mieux que nous pouvons. Et on ne nous apprend tellement pas à le retrouver. Donc là, ce que va nous dire Maître Eckhart, ceci étant rappelé, donc avec le contexte, nous entrons donc dans le sermon 101, en sachant que le sermon 101, c'est véritablement un petit traité sur la naissance de Dieu dans l'âme. Et on va voir très vite qu'il y a trois thèmes qui vont apparaître dans cette expérience. Et les sermons 102, 103 et 104, là où le sermon 101 est en vérité un donné magistral, sans question-réponse, le psaume 102, 103, 104, en 18 questions, vont répondre à des points un petit peu ambigus ou difficiles, et finalement les sermons 103, 104 sont un approfondissement de ce qui a été déposé de manière générale dans le psaume 101. Que vous retrouverez, là je pense aussi à des sermons de Maître Eckhart. J'ai pas le livre malheureusement, je vais le lire là-bas. En tout cas, un petit livre qui est très intéressant, qui est un condensé de ce qu'on pourra partager, Maître Eckhart, sur la naissance de Dieu dans l'âme. La préface de Marie-Anne Vanier, et donc c'est aux éditions Arfouyenne, Arfouyenne, ou Arfouyenne, donc de Maître Eckhart, sur la naissance de Dieu dans l'âme, sermon 101-104. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment l'approfondir ou donner du corps, hein, donc beaucoup plus à ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en tout cas comme introduction, hein, donc je propose de rejoindre. Donc voilà, si je vous propose là les quelques, voilà, la vingtaine de minutes qui restent là avant la pause, peut-être, c'est d'entrer tout simplement dans ce sermon, comme avec Jean Pelaire, hein, tout à l'heure, et puis d'essayer de voir comment ça répond, quels sont ces, hein, en essayant de le... Voilà, j'aime particulièrement cette traduction qui en est faite parce que je trouve qu'elle est plus simple que beaucoup d'autres, que de deux, trois autres, un peu plus complexes, je trouve. Hein, cette traduction là de ce petit livre est particulièrement intéressante. Donc, on commence le sermon 101, si vous le voulez bien, en y abordant les aspects essentiels pour nous, hein, parce que ça peut être parfois assez bon, complexe à un moment donné, mais on va rester vraiment dans ce qui reste audible pour chacun d'entre nous. Donc, le sermon commence comme cela. C'est un sermon qu'il va sans doute faire, Maître Eckhart, donc très concrètement, dans un dimanche de l'octave de Noël. Hein, en quelle année, on ne sait pas. Auprès de ses sœurs, et elles prennent des notes. Hein, on retrouve la trace des notes. Hein, voilà, c'est vraiment les grandes gardiennes, hein, de cette parole, c'est étonnant. Mais c'est vraiment ces femmes, dans ce corps féminin, peut-être sans doute le plus aptes à recueillir une telle parole, à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui. Parce que les femmes, on le sent bien, ce féminin, bon, l'homme bien sûr aussi, mais peut-être les femmes sont plus naturellement douées dans ce lien à l'intériorité, de par leur être même, dans les structures qui sont les leurs. Hein. L'homme aussi, bien sûr, l'est, hein, dans cette dimension féminine, ô combien qui appartient. Mais il y a sans doute là une dimension... étonnante, hein, de grâce qui est donnée là. Donc ce texte commence ainsi. Voici que nous entrons dans le temps de la naissance éternelle. Donc ce temps de l'octave de Noël. Et Maître Eckhart va rejeter, ou en tout cas ne parlera pas de la naissance de Jésus à Bethléem. Il n'en parlera jamais pratiquement. Il parle d'emblée de la naissance éternelle. Du Fils par le Père dans la divine Trinité, par laquelle Dieu le Père a engendré dans l'éternité et ne cesse d'engendrer afin que cette même naissance se produise aujourd'hui, dans le temps, dans la nature humaine. Tout ce qui se passe dans l'éternité de Dieu, ça nous concerne, c'est en nous que ça se passe, c'est aujourd'hui. Et là, hein, vous vous rappelez, que cette naissance se produise toujours, dit saint Augustin, à quoi cela me sert-il ? Si elle ne se produit pas en moi. Bon, avec un bémol, c'est que ce n'est pas cet Augustin au départ qui a dit ça, c'est Origène, la source première. Qu'elle se produise en moi, c'est cela qui importe. D'emblée, Maître Eckhart va au centre du sujet. Il convient que nous parlions maintenant de cette naissance. Comment se produit-elle en nous? Comment s'accomplit-elle dans une âme qu'il va nommer noble? C'est-à-dire cette âme qui se donne à l'exercice, hein, qui s'ouvre vraiment et qui prend conscience du mystère qui l'habite, qui prend soin dans une attention amoureuse, nous le rappelions ce matin. Où, dans cette âme parfaite, Dieu le Père prononce-t-il sa parole éternelle? C'est-à-dire, où est-ce que le Fils est prononcé? Où est-ce que le Fils advient dans cette âme? Donc là, il part d'un texte qui est une phrase du livre de la sagesse, qui est la phrase suivante. Alors qu'un silence paisible, dit le sage, enveloppait toute chose et que la nuit venait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'est élancée du trône royal. C'est sur cette parole que doit porter ce sermon. Alors, on sent qu'aujourd'hui, cette parole, on peut l'entendre extérieurement, du haut des cieux. Et quand nous savons qu'en hébreu, les cieux, Shamaïm, en hébreu, ce sont en fait les cieux intérieurs, les eaux intérieures, on pourrait dire, les maïm, qui sont habités de l'être Shin, du feu, on peut imaginer finalement que ce trône royal, eh bien c'est ce trône qui est au plus profond de nous-mêmes, ce siège vraiment profond, donc au cœur même, on en verra peut-être quelques aspects, donc peut-être avec un dessin anthropologique, donc cette dimension intérieure, cette parole, elle naît, je dirais, du plus profond de notre intériorité. Intériorité dont on n'est pas forcément conscient, sont broussaillés par des logiques, des longueurs d'onde mentales, émotionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas ce lieu-là? Qu'est-ce qui fait que ce lieu-là, qui est le plus haut sommet de la montagne, ou au plus profond du cœur, nous ne l'entendons plus? Nous savons bien, c'est que nous sommes sans arrêt pollués, parasités par des logiques vibratoires, je dirais, d'un poste avec une info en continu. Vous savez, c'est un peu comment c'est CNN en continu chez nous. C'est en continu CNN, c'est les nouvelles qui arrivent avec les nouvelles du psychisme, du mental, des émotions. On fonctionne sans arrêt avec un CNN 24 heures sur 24, plus ou moins. Donc à un moment donné, pour qu'on stoppe CNN, il faut qu'on débranche. Et comment ? Mais c'est ça notre histoire, notre drame, c'est qu'on n'entend plus ça. On est sans arrêt manipulé par ces espaces de pensée, de soucis, d'émotions, de contraintes inhérentes à la vie extérieure. C'est tellement légitime, les matières grises du tissu psychique qui sont là, mais qui fait qu'on n'entend plus l'au-delà du psychique. On est configuré au nuage noir en oubliant la présence du grand ciel bleu au-delà des nuages. L'espace qu'on a beaucoup nommé comme la pleine conscience, aujourd'hui, qui est en vérité l'espace de la pleine présence. Pleine présence. La présence de l'être, de cette dimension qui appelle à advenir, à nous dilater, à nous envahir, à venir nous habiter dans tous les registres de notre humanité, le plus intime, mais après, dans une contagion du vivant, dans tous nos corps, même que dans les corps les plus denses, dans une transfusion. Donc, nous rappelle Maître Eckhart, trois choses sont ici à considérer. La première est celle-ci. Où dans l'âme, Dieu le Père prononce-t-il sa parole? Où a lieu cette naissance? Où l'âme est-elle réceptive à cette opération? Et là, tout de suite, il va dire, il faut que ce soit dans la part la plus pure, la plus noble, la plus subtile de ce que l'âme peut offrir. L'âme dans laquelle doit se produire cette naissance doit donc se tenir toute pure et mener une vie noble, une, intérieure. Nous retrouvons les mêmes descriptions que tout à l'heure Jean Tolère. Elle ne doit pas s'évader dans les cinq sens, dans la multiplicité des créatures, mais être totalement intérieure et une. Et vous sentez, ça c'est un des grands exercices qu'on retrouvera dans la grande tradition aussi ascétique et de prière qu'on retrouve donc dans la tradition hésychaste par exemple, le fait de faire descendre son intelligence dans le cœur. Par définition, l'intelligence ou l'intellect a des fonctions dispersantes, d'atomisation. C'est comme si, en fait, on avait perdu l'être humain en exil, en égarement, désinséré de l'être qui le fait être, désinséré de ses profondeurs, tout est atomisé, et n'a plus cette perspective symbolique, cette perspective d'unification, mais désormais a une perspective analytique, qui peut avoir son sens, bien sûr. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a que cette vision analytique. Et il a perdu cette vision globalisante, cette vision cordiale des choses. Et c'est pour ça que tout le travail que nous invite à faire la tradition de prière, la tradition ascétique, c'est comment faire descendre cette dimension multiple, atomisante, qui est sans arrêt en train d'analyser, de décortiquer, de progressivement, un peu le même mouvement que ce matin, l'unifier pour le ramener dans le cœur. Vous savez, c'est ce que dira de manière très poétique le Cantique des Cantiques, lorsque la bien-aimée en appel de ce principe d'unification, qui appelle à ne plus errer en vagabonde, demande une parole, un chemin au bien-aimé, à celui que son cœur aime. Et ce que dit le bien-aimé à ce moment-là, c'est qu'il dit « Sors de l'histoire où tu es, suis les traces de la conscience et ramène les troupeaux de ton âme, ramène ces petits chevreaux dans la grange des pâtres ou des bergers. » Mais les petits chevreaux qui sautillent de tous les côtés, les voilà, je dirais, ces fonctions totalement atomisées ou totalement éclatées. Nous avons ce travail intérieur, dans la grâce de l'esprit, de ramener, de concentrer, cum centrum, hein, de ramener au centre, hein, d'homogénéiser cette dimension un peu hétéroclite de notre humanité, l'homogénéiser pour l'unifier et le ramener dans la grange des pâtres. Le cœur profond. C'est ce travail que toutes les grandes traditions spirituelles nous invitent à faire de toute façon. Veiller, prier, l'invocation du Saint-Nom, il est là aussi pour ça. C'est vraiment de donner un moyen pour que le mental sorte de cette atomisation, cette dispersion. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand on commence à se poser en assise et qu'on fait silence, les petits chevreaux des pensées s'arrêtent pas de... Et on se retrouve, alors qu'on est en train d'invoquer le Saint-Nom de Dieu, à Carrefour, en train de faire, ou ailleurs, en train de faire la liste des repas, pour des courses pour ce soir, on sait bien combien c'est tellement difficile pour nous, aujourd'hui, psychiquement, de garder, connaître quelques moments un état sans pensée. Un état où il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Un vide. Ça, c'est toutes les pratiques qu'on retrouve dans les grandes traditions spirituelles, c'est la pratique de Shiné, dans le bouddhisme tibétain, par exemple, ou dans le bouddhisme zen. Alors là, vraiment, c'est bien une pratique aussi, mais toutes les pratiques, et dans le christianisme aussi, vraiment. Eckhart Tolle va beaucoup en parler aussi. Ce moment de l'instant présent, que certains connaissent, Eckhart, je crois que ce n'est pas étonnant non plus que Maître Eckhart, Eckhart Tolle, il nous ramène un petit peu dans une approche très contemporaine, un peu de non-dualité, mais en tout cas dans cette expérience de l'or vient et c'est maintenant, ici et maintenant. Il y a quelque chose donc qui nous invite à ce travail d'unification. Donc, où ? Deuxième question qui est posée, donc où ? On l'approfondira tout à l'heure. Ensuite, deuxième question qui est posée, c'est comment l'homme doit-il se comporter à l'égard de cette opération, de cette parole intérieure ? Bon, elle s'engendre là. Mais vaut-il mieux pour lui qu'il coopère à cette naissance afin de mériter et obtenir qu'elle se produise en lui et qu'il soit engendré, c'est-à-dire se créer dans l'intellect et la mémoire une image et s'exercer sur elle en pensant Dieu est bon, sage, tout-puissant, éternel, créer des images. Et tout ce qu'on peut penser de Dieu, cela sert-il et facilite-t-il cet engendrement par le Père ? Ou bien, vaut-il mieux se retirer et se dépouiller de toute pensée, parole et action, de toute image et intelligence, demeurer tout entier dans ce que la tradition écartienne nomme le pâtir de Dieu ou le souffrir Dieu, qui est en fait le mot en allemand Gott leiden. Et leiden, littéralement, en allemand, ça veut dire, oui, il y a la notion de la passion du Christ, das Leiden, mais aussi un état passif. Et vous verrez, quand vous lisez souvent le lien à Maître Eckhart, on a souvent cette notion, cette thématique de souffrir Dieu, de pâtir Dieu. Mais là, dans la traduction française, c'est très mal rendu, parce qu'il y a la connotation doloriste qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire, souffrir Dieu, ou pâtir Dieu ? En vérité, ce qui est dit, c'est que l'âme est invitée à devenir passive par rapport à Dieu. Ce qui n'a rien à voir. Mais c'est le mot qui est là. Gottlieben. Donc, vaut-il mieux se retirer se dépouiller de toute image, pensée, parole et action, demeurer tout entier dans une pure passivité devant Dieu. C'est ce que dit la traduction qui a été choisie. Se tenir oisif et le laisser agir. Vous sentez, c'est une question pour nous ça aussi, souvent dans nos pratiques. Quel est, pour cette naissance, ce qui est le plus utile à l'homme? Et le troisième point concerne le profit qu'il y a à cette naissance. De quelle importance est-il? Donc en fait, dans ce sermon 101, trois questions, trois thématiques. Où le lieu de la naissance? Comment? Quelle est la posture de l'être humain pour faciliter cette naissance? Doit-il créer quelque chose? Ou au contraire, être totalement passif? C'est ça, dans cette absence, dans cet apprentissage à aller vers le vide. Parce que souvent, on en rajoute sans arrêt des images. Parce qu'on est sans arrêt dans une espèce de productivité pour que ça se fasse. Ou au contraire, on arrive dans quelque chose de très féminin comme attitude, d'une dimension de laisser aller, de tout abandonner, de ne plus rien comprendre, de ne plus rien savoir, et laisser l'être dans une capitulation de sa propre volonté. Vous savez ce que ça veut dire pour nous quand même. C'est-à-dire que nous, par définition, dès que ça commence à pas aller très bien, on se crispe un peu et on veut produire. Souvent on veut faire, on veut, pour sécuriser, on produit des choses. Donc là, l'idée c'est, quand ça ne va pas justement, enfin quand on traverse quelque chose, laisser totalement l'action se mener dans une espèce de passivité. Enfin, comment je dirais ça? Je crois que le mot le plus juste pour traduire, qu'on retrouve dans le taoïsme, le mot « uwei », l'agir sans agir, le non-agir. Ça, je crois que Maître Eckhart touche vraiment à travers cette posture-là sur le non-agir. Qu'est-ce que une action qui serait une non-action? Je ne sais pas comment dire. Une action qui...
Vigilante passive.
Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. Vigilante passivité, enfin je sais pas comment dire, parce que dans le mot passif, on pourrait se dire que...
Lâcher prise, c'est agir quand même.
Alors voilà, mais dans quelque chose qui va faire qu'il y a une détente de l'âme qui n'est pas de faire, mais de défaire, d'être défait, de laisser, être ce qu'il y a à être, dans une invitation à ne pas donner prise à des mouvements qui naturellement voudraient sans arrêt contrôler et reprendre le contrôle. C'est toute cette question qui sera donc proposée, et après le où et le comment... C'est pourquoi. Et nous verrons que dans le pourquoi, c'est ni plus ni moins, du point de vue de la tradition de Maître Eckhart, l'entrée dans la vie trinitaire. Et on a beaucoup entendu Eckhart comme étant un peu le chantre de l'essence de Dieu, de l'unique essence, enfin de l'essence une. En vérité, Maître Eckhart est très proche de la dimension trinitaire, en termes de personne divine. Donc l'entrée dans la vie trinitaire, et là nous retrouvons souvent les perspectives qu'on retrouve dans la tradition peut-être plus orthodoxe, je dirais, de l'Église. On se pose là, on continue un petit peu? On continue encore un petit peu? Voilà, simplement ce qui va être... Donc voilà, en gros, vous avez... le où, le comment et le pourquoi. Donc je vous propose là de commencer à répondre à travers ce que va dire Maître Eckhart, et puis voilà, après s'il y a des questions, on essaiera, ou même des témoignages à approfondir. Donc là, maintenant, Maître Eckhart, dans ce premier sermon, va reprendre ces trois points. Où, comment et pourquoi. Alors, où, on va répéter certaines choses, il le dit. Donc là, je ne vais pas forcément lire tout le sermon, mais en extraire peut-être les parties les plus prégnantes pour nous. Comme je l'ai déjà dit, c'est dans le plus pur et le plus noble de ce que l'âme peut offrir dans le fond, et mieux encore dans l'essence de l'âme, c'est-à-dire en ce qu'elle a de plus caché. Comme s'il y avait en nous un endroit replié. Vous savez, on parle beaucoup actuellement d'univers replié, d'un point de vue de la physique quantique. C'est comme s'il y avait en nous, on pourrait dire, un lieu replié, un lieu caché, ce lieu dont nous n'avons pas accès, hein, et qui est pourtant le lieu de l'abouchement, le mot n'est pas très beau quand je le prononce, ça me fait bizarre, en tout cas le lieu de l'abouchement de l'âme avec son Seigneur. Quelque chose qui, voilà, espèce de rencontre là, là où se trouve, dira Maître Eckhart, le milieu du silence, car aucune créature, aucune image n'y est jamais entrée. L'âme n'y a aucune action, aucune compréhension, et n'y connaît aucune image d'elle-même, ni d'aucune créature. Bon, franchement, ce lieu, bon, on le décrit, mais je sais pas si on peut le percevoir, ce lieu, enfin, si on peut l'imaginer, parce que nous, on passe sans arrêt, et là, c'est là où Maître Eckhart va un petit peu, comme Jean Teller, développer ce concept, et là, il rejoint Aristote. Donc, en fait, il va décrire le principe de l'âme, Jean Teller, je vais passer un petit peu vite, sur trois fonctions de l'âme, d'ailleurs, que Jean Teller rappelait ce matin. L'intellect, c'est par là que l'homme comprend. La mémoire, c'est par là que l'être humain se souvient. Et puis, la libre volonté, le libre vouloir ou la volonté, et c'est par là que l'être humain aime. Comprendre, se souvenir et aimer. Et là, il n'aura de cesse que de dire qu'à travers ces trois fonctions, l'âme est sans arrêt dans des perspectives d'opération, de mise en place d'images pour entrer en relation avec le monde extérieur. Et que donc c'est inhérent à la logique du fonctionnement psychique. Mais pourtant, plus profond que ce fonctionnement de l'âme, il y a, alors les pères diront à la pointe de l'âme, ou dans le fond de l'âme. Hein, donc là, est-ce à la pointe, est-ce au fond? Les images, vous savez bien, sont un peu... En tout cas, il y a quelque chose au fond de l'âme, au plus profond de l'âme, où se trouve le milieu du silence. Il n'y a ici que repos et une demeure pour cette naissance et cette opération par laquelle le Père prononce ici sa parole. Donc là, il va développer tout un ensemble de choses et en disant finalement comment à un moment donné... Eh bien, le Père donc va vraiment engendrer, c'est de cette manière que le Père engendre son Fils dans le fond et l'essence de l'âme. Et où là, il n'y a aucune image possible. On est vraiment dans un lieu, vous savez mes amis, qui touche à ce que nous appelons la virginité de l'âme. Je sais que c'est un sujet, me rappelait Roselyne, qui était très cher à Père Jean Thierry. Mais en vérité, c'est, je crois, très important. Vraiment, c'est le contexte de cette virginité propre et riche de la tradition mystique de l'école rhénane. Nous sommes invités à devenir vierges, à retrouver ce lieu vierge. Et il faut beaucoup de temps pour redevenir vierge. Cette virginisation des mémoires. Là où sans arrêt nous fonctionnons à travers des images, images qui sont inscrites. Maître Eckhart développe beaucoup ça, ces images qu'on reçoit. Et on entre en relation avec tel ou tel événement, avec ce lutrin, cette icône, un cheval, une rose, il prend différents exemples, à partir d'images que nous nous faisons de ces objets et qui nous permettons de les retrouver et de les reconnaître. Donc l'histoire, c'est de, comment on se dirait, de faire le reset informatique, pour effacer tout le disque dur. Bon, je le fais un peu rapide. Alors, c'est pas le reset.
Tout par rapport à la configuration originale.
Alors, ok, d'accord. Donc, du coup, c'est pas un reset. C'est quelque part le truc où le disque dur, en fait, est remis à... vierge. Déformaté, voilà. Reformaté. Donc là, c'est une invitation, en vérité, à pas reformater. C'est de retrouver en nous, plutôt, le lieu que nous ne savons pas porter, tellement habitué à fonctionner à partir du lieu psychique habituel de projection avec les images à l'extérieur. Il y a un lieu en nous qui est vierge de tout cela. C'est la reconnaissance de Marie, de l'archétype, de l'image structurante de Marie. Et c'est là, dans ce lieu-là, que nous sommes des mères. Quel est donc nous sommes? Homme ou femme, parce que c'est dans ce lieu-là, du fond de l'âme, que le Père engendre ou dit la parole qui est son Fils dans ce lieu-là. D'accord ?
Donc là, il y a l'image quand même. Lion, je pense.
Non, mais c'est sûr que là, on est piégé, parce que là, de toute façon, il faudrait que je me taise maintenant, en vérité. Pour que ce soit juste, il faudrait que je me taise, parce qu'il n'y a plus de mots. Mais comment en même temps approcher, comment dire en mots l'histoire? Mais finalement, comment nommer quelque chose où il n'y a plus rien?
C'est
la vie, c'est
quand même fort.
Ah ben, c'est... Même si Maître Eckhart ne le dit pas comme ça, parce que c'est de nouveau une image, je suis d'accord. Mais peut-être que pour certains d'entre eux, c'est peut-être intéressant de l'intégrer comme ça. C'est l'image structurante de Marie, dans sa virginité totalement offerte, qui fait que cette Vierge, dont Jean Tolère nous parlait tout à l'heure, avec cette notion d'être totalement ordonnée à l'intériorité, d'être Vierge, chasteté, chaste, rappelez-vous, le mot chaste, c'est intégrité, unification. Tout en elle est ordonné et configuré par amour à son Seigneur. Donc en fait, c'est comment il y a en nous, c'est ça qui est important à entendre, c'est qu'il y a en nous un tel lieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait à imaginer ou à construire, c'est déjà là. C'est ça que nous dit Maître Eckhart. Ce lieu-là est déjà là, c'est ce haut lieu de nous-mêmes dont nous avons perdu la trace. Donc ce n'est pas une construction à retrouver ou à trouver, à faire en nous, à la mesure où nous défaisons tout ce qui a été construit, où nous devons être défaits, simplifiés, eh bien, nous retrouvons ce lieu-là. Et donc, vous sentez que finalement, toute la question qui va venir après dans le comment, mais ça peut-être qu'on va s'arrêter là maintenant, hein, parce que, voilà, on va... Mais toute l'histoire, finalement, c'est de défaire, et toute l'histoire, hein, nous dira Maître Eckhart, une grande tradition, c'est justement là où nous avons tellement été habitués à apprendre, à accumuler, à avoir de plus en plus de connaissances sur tel ou tel sujet. Eh bien, cette théologie nous prend à rebours et nous invite au contraire à tout abandonner. C'est-à-dire, en fait, à s'appuyer sur ce que l'on sait, mais finalement, progressivement, entendre que ce que l'on sait peut être un obstacle, si on s'y accroche, à l'advenu de ce qui est en dessous. C'est qu'à un moment donné, on va être invité à entrer dans une expérience de non-savoir, de consentir à tout laisser aller, enfin, à abandonner toute forme de... Que ça, c'est pas important. On se laisse piéger, même dans nos chemins spirituels, souvent, à vouloir thésauriser, savoir, espèce de construction spirituelle qu'on se fait, d'un ego spirituel, finalement, au bout du compte. Qu'est-ce que ça nourrit, finalement, l'ego spirituel, souvent? C'est quelque chose qui est très... souvent là, dans nos vies. Et Maître Eckhart, c'est décapant, la proposition. C'est décapant. Parce qu'il nous invite à abandonner toute cette espèce d'illusion qu'on pourrait se nourrir pour entrer, pour oser entrer dans « Ah, je comprends plus rien, je ne sais plus rien, je quitte ce mouvement de saisie, d'avidité, je lâche. » Ce n'est pas là l'histoire. L'histoire, c'est de défaire, d'être pour retrouver ce lieu simple, unifié, où un mystérieux mouvement s'accomplit, d'engendrement. Ah non. Voilà, c'est cette dimension intérieure là dont il est question, si vous voulez bien qu'on approfondira. Donc voilà, hein, il est 15h20, donc on se retrouve. André, peut-être après, si tu veux bien.
Hein, après. Parce que c'était justement pour vraiment délimiter la limite entre l'âme, parce que beaucoup de choses dont on a parlé en utilisant l'âme. Je me demande dans quelle mesure...
Alors, je ferai tout à l'heure j'ai un schéma, André, comme ça, qui pourrait expliquer un petit peu tout ça, ou le préciser. D'accord. Ok. 15h20. 15h50. On se retrouve. Le petit gong. Pour nous mettre en suspension. Voilà. Peut-être un petit moment simplement de... intérieur, hein, pour essayer de rendre légère l'histoire, un peu plus légère, et puis quand vous le sentez, donc voilà, une demi-heure. Hein.